Bonsoir, chers auditeurs. Alors, nous allons recevoir, selon notre habitude, le pasteur Blanchard.
Oui, bonsoir,
vous m'entendez,
Cerimère.
Pasteur ?
Voilà, écoutez, je suis toujours fidèle au poste et je vois que vous l'êtes aussi depuis si longtemps que pour nous, c'est quelque chose d'encouragement.
Mais vous,
d'encourageant
vous êtes...
de voir que la fidélité est payante.
Hein. Vous êtes plus ancien que nous.
Oui. Alors, notre déléguée nationale, Madame Béatrice Chaberneau, propose ses services aussi bien pour des formulaires comme pour des courriers professionnels que pour des aides pour Internet. Comme je le dis régulièrement, donc on peut lui téléphoner au 06 79 72 88 10, 06 79 72 88 10. Ou alors lui envoyer un courriel, Béatrice Chaberneau avec un D à la fin, @orange.fr. Béatrice Chaberneau, @orange.fr. Par ailleurs, je continue le travail psychologique à travers l'Espérance au cœur et son numéro vert que vous connaissez bien, le 09 72 16 33 10. 09 72 16 33 10. Lieu d'écoute pour personnes se trouvant dans des situations difficiles. Nous n'avons pas de réponse, comme je le dis régulièrement, mais nous essayons de trouver des pistes qui permettent de solutionner, même temporairement, des situations parfois très, très épineuses. Alors, je vais parler d'un personnage qui a traversé toutes les maraudes pendant plus de 20 ans, que j'ai connu dès 2004 et qui est devenu une légende de l'action sociale populaire, Michel, qui demeurait entre la gare d'Austerlitz et l'angle du Jardin des Plantes, à Puy-au-Réverbère, là.
Oui.
Et pendant plus de 20 ans, on l'a suivi. Et il avait une particularité, c'est que il parlait le vieux français, enfin le vieux français parisien des faubourgs. Ce français où on mange la moitié des mots, on a du mal à comprendre, il parlait comme ça. Et c'est Julien Rosedy qui était venu à une maraude avec Gaëtan Dussausset, qui est maintenant député, il était à l'époque responsable tous les deux du FNJ, qui m'a dit « Mais il parle vieux français, on dirait Louis-Ferdinand Céline, c'est extraordinaire, parce que ça s'est complètement perdu, cette vieille expression françouillère de la barrière, on l'a plus maintenant, et ça a été quelque chose d'extraordinaire pour lui de découvrir qu'il y avait encore des gens qui avaient ce langage. » Alors, il avait une particularité, Michel, c'est que, comme beaucoup de SDF, on ne le sait pas, mais il se faisait piquer les tentes qu'on lui donnait. Alors, on lui donnait une tente, il s'y installait, et puis, vous savez, même chez les SDF, il y a
bien sûr
de la rivalité dans l'air, et on lui volait sa tente, alors il achetait une autre, et puis, chaque fois, c'était une victime. Il ne savait pas se battre, et surtout, ce qui m'impressionnait, c'est que, des fois, sous la pluie battante, et pas que lui, il dormait sous la pluie battante. Et il allait, je ne sais pas si vous voyez un peu la topologie de ce secteur,
je connais très bien,
il y a un arrêt de bus là.
Oui.
Il allait se réfugier dans l'arrêt de bus, mais l'arrêt de bus, c'est pas fermé. Hein, et donc il dormait là allongé, ça coulait sur le trottoir avec la pluie qui le traversait. Ah oui, on peut pas se rendre compte les situations dans lesquelles vivent ces gens-là.
Oui.
Et d'ailleurs, je voulais le dire, parce qu'il y a longtemps que j'aurais dû le dire, quand vous voyez des photos de maraudes où on voit les SDF entourés de cartons, mais les cartons, c'est leur maison.
Oui.
Ils l'installent le soir, et par boulevard Haussmann, par exemple, il y avait tout le long, ils l'installent le soir, et le matin, à 6h, parce que les grands magasins vont ouvrir, ils sont obligés de riper, et ils planquent leurs cartons à droite, à gauche, et ils les reprennent le soir. Vous vous rendez compte la vie que c'est pour ces gens-là d'être dans la rue, et ils dorment très peu dans le fond. Hein. Alors Michel, il a été paradoxalement une star d'un film qui s'intitule Au bord du monde, qui a été tourné par un journaliste. Ce journaliste s'est immergé pendant un an dans la rue au contact des SDF, et parmi les SDF qu'il a interviewé, il y avait Michel. Et on peut se le procurer sur Internet, Au bord du monde, où on voit la vie des SDF au quotidien, qui est loin d'être facile. Et pour finir cette belle histoire, j'ai un de mes collaborateurs, un membre de mon équipe, Bruno Rajalu, qui s'est attaché à Michel et qui allait le voir tous les jours de la semaine, même en dehors des maraudes.
Ah oui.
Et il s'en est fait son ami. Et un jour, il m'a invité chez lui, il m'a dit, vous savez, pasteur, mon meilleur ami, c'est Michel. Et quand on l'a plus vu, il est allé se renseigner à la mairie à côté et on a appris qu'il était décédé. Voilà la vie des gens dans la rue. Pendant des années, il a vécu à l'angle du boulevard du Jardin des Plantes et de la gare d'Austerlitz. Et c'est vrai que c'était plus qu'une connaissance, c'était pas un ami, mais c'était quelque chose de plus profond, une relation.
Je comprends.
Une relation qui s'est instaurée entre eux et nous.
Oui.
Et je dois dire que c'est ça l'enrichissement, parce qu'il n'y a dans cette histoire que de dimensions, que d'hommes. Voilà. Et nous sommes tous des hommes avec des imperfections, nos faiblesses, et puis personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on peut se retrouver, du moins certains, dans cette situation. Et voilà, donc, une relation amicale qui a duré plus de 20 ans avec Michel. Enfin, pour les amateurs de Radio Courtoisie, ceux qui veulent voir, entendre, parce qu'il y a des vidéos, les vieilles émissions de Radio Courtoisie, il y a le blog Mémoire au cœur, qui est la mémoire de Radio Courtoisie, http://mémoireaucœur.overblog.com http://mémoireaucœur.overblog.com Et enfin, faites un geste en allant soit voir ma page sur Google, vous mettez en recherche Pasteur Blanchard et vous verrez ma biographie, soit en allant voir mon blog et vous verrez le travail qu'on fait. Voilà, j'en profite pour saluer un fidèle ami de l'association, Jean-Claude Antonouti, qui est un fidèle parmi les fidèles, un grognard de l'ASP.
Oui.
Et puis, je vous remercie de votre fidélité depuis tout ce temps. Et dans cette situation chaotique dans laquelle nous sommes, notre seule espérance, vous le savez, c'est Jésus-Christ.
Bien sûr.
La lumière qui brille dans les ténèbres, c'est Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, cher Hilaire.
Merci.
Et qu'il bénisse notre pays.
Vous aussi. Et vous aussi. Merci beaucoup.
Au mois prochain.
Au mois prochain, merci. Au revoir.
Au revoir.
Alors, nous avons maintenant M. Pierre Lours.
Bonsoir, Hilaire.
Ah, voilà, vous êtes là. Très bien, Pierre. Merci d'être là. Vous êtes dans le fond de votre Cantal, si c'est permis de donner votre lieu.
Oui, oui, absolument. Je suis Cantalou.
Ouais.
Exactement.
Et vous êtes sous la pluie?
Bon, écoutez, il y a un peu de pluie, mais j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête et non pas comme ces sans domicile fixe, comme on dit d'une manière hypocrite, parce qu'ils n'ont pas de domicile du tout, qu'ils soient fixes ou mobiles, ils n'ont pas de domicile. C'est les sans domicile.
Et j'avais envie de rappeler au pasteur Blanchard tout à l'heure que notre président Macron, en 2017, s'était engagé à ce que dans les 6 mois ou dans l'année qui allait suivre, il n'y aurait plus personne qui logerait dans la rue. Je ne sais pas si on se souvient.
Oui,
ça n'empêche pas de chanter et de prendre le piano et de chanter d'une voix de fausset. Ouais. Aznavour.
La bohème, effectivement.
La bohème. Bon, alors vous vous intéressez à la démocratie et surtout à la démocratie si vivante que nous avons en France et vous vous posez la question de savoir si les conditions politiques sont réunies pour un exercice serein de cette démocratie. Je crois deviner quelle va être votre réponse, mais je vous laisse la parole.
Écoutez, effectivement, on a tendance à penser que, notamment les marxistes qui parlaient des libertés fictives, des libertés apparentes, parlaient aussi, on pourrait parler aussi de la démocratie apparente, de la démocratie fictive, de la démocratie mimée.
Nominal. Bon.
Voilà, nominal, nominal. Bon, alors, si vous voulez, effectivement, on peut quand même essayer de voir un petit peu plus loin et passer en revue très rapidement qu'est-ce qui caractérise la démocratie, et plus particulièrement la démocratie républicaine, puisque c'est celle qui nous concerne depuis 1789, hormis les, oui, les périodes de restauration et de royauté. En fait, cette démocratie républicaine est définie par la fameuse phrase, le fameux triptyque, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Oui. Bon.
Ce qui veut dire qu'il faut un peuple, c'est la base. S'il n'y a pas de démocratie sans l'existence d'un peuple. Et le peuple, il existe quand d'abord il a une identité, c'est-à-dire une cohésion
bien sûr
dans son histoire, dans son présent, dans son avenir.
Un territoire.
Donc, et un territoire, bien sûr. Et ça, c'est essentiel. Et il faut évidemment que ce peuple, en plus, ait des qualités morales, si possible, des qualités intellectuelles,
historiques aussi. Historique,
évidemment, c'est dans le domaine culturel, avant tout, c'est l'histoire, l'histoire de toutes les volets culturels, hein, l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, de la philosophie, etc. C'est essentiel, cette généalogie culturelle c'est la base. Et puis, il faut que ce peuple ait du caractère aussi, c'est-à-dire ait de la vigueur, ait envie d'être. Il faut qu'il ait envie d'être. Il ne faut pas qu'il soit attiré par le néant, soit attiré simplement par le présent immédiat, on ne peut plus matériel et consommateur. Voilà, donc je laisse à nos auditeurs le soin de savoir si effectivement ces conditions, ces premières conditions sont remplies en France de nos jours. Il faut aussi des institutions, parce qu'il faut des mécanismes pour que effectivement une démocratie fonctionne, un système démocratique fonctionne. Et la première condition dans ces institutions, c'est évidemment tout simplement qu'elles soient souveraines. Une institution, des institutions souveraines. Alors, est-ce que les institutions de la France actuelle sont souveraines si on regarde son articulation avec l'Union européenne, qui, je le rappelle, est à la base de 80% des lois françaises. C'est-à-dire que 80% des lois françaises sont des mesures d'application, tout simplement, des directives européennes.
En particulier sur l'immigration, c'est-à-dire sur la constitution du peuple français.
Eh oui, on revient encore sur ce sujet. Hein.
Oui.
L'Union européenne oblige, détermine, dicte qu'il faut intégrer, il faut admettre 4 millions d'immigrés par an. Et ça, en plus, c'est seulement les immigrés, légaux. Donc, vous ajoutez à ça les illégaux.
Oui.
Et puis il y a aussi sur le pays, il faut voir quelle est leur articulation vis-à-vis des autres pouvoirs qui ne sont pas directement politiques, comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de justice européenne, enfin tous ces pouvoirs judiciaires qui normalement sont là pour garantir le bon fonctionnement de cette même constitution, mais on peut se demander si, en fin de compte, ils n'ont pas pris le pas sur le pouvoir politique de l'Assemblée.
Ils interviennent depuis maintenant de longues années. Dans mon dernier éditorial, je rappelle l'histoire de Roland Dumas, qui était un monsieur très compromis dans les affaires du PS. Parce qu'on fait comme s'il n'y avait que des affaires à droite, mais le Parti socialiste et la Mitterrandie avaient un nombre d'affaires considérable, Urba, etc. Mais il y avait aussi l'affaire Elf. Roland Dumas était dans l'affaire Elf, où il a laissé d'ailleurs tremper sa maîtresse, qui en a supporté les conséquences, Madame de Viejoncourt. Et Roland Dumas a été nommé par Mitterrand, en raison de ses qualités, président du Conseil constitutionnel. Alors, je n'ose rappeler la nomination récente d'un même homme, enfin d'un homme, par le président Macron, mais nous ne ferons pas de, nous n'irons pas plus loin dans les comparaisons. Roland Dumas, il a très bien rempli son rôle de gardien des institutions, puisque c'est lui qui a décidé souverainement et il a engagé le Conseil constitutionnel, l'autorité du Conseil constitutionnel, et il a obtenu l'accord unanime des membres du Conseil constitutionnel pour valider les comptes de campagne de Chirac et de Balladur, dont tout le monde savait qu'ils avaient excédé tous les postes de dépenses et qu'ils étaient truffés de fausses factures. Et je ne sais si vous vous souvenez, mais avant de mourir en 2015, Roland Dumas a avoué tout uniment qu'il avait commis cette prévarication, parce que ça s'appelle une prévarication quand on est président du Conseil constitutionnel, mais en toute honnêteté et en toute honnêteté républicaine, c'est-à-dire qu'il l'avait fait pour garder les institutions, sinon c'était trop grave. Non, mais c'est authentique. Bon, et le même d'ailleurs, Roland Dumas, j'en profite pour rappeler cela, est celui qui a pris une décision du Conseil constitutionnel pour garantir l'immunité du président Mitterrand au moment où il risquait précisément d'être compromis dans des affaires extrêmement complexes et qui lui avaient évidemment permis d'accéder au pouvoir. Alors, je pense que c'est de ça dont vous voulez parler, mon cher ami Pierre Lourse. C'est les institutions républicaines. C'est ça, ce n'est rien d'autre que ça. Ça n'a jamais été que ça, d'ailleurs. Quand on les prend toutes, non ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
Oui, mais bien sûr. Et ça se double en plus, hein, si vous voulez, ce manque de souveraineté des institutions se double aussi par les liens on ne peut plus étroits et ligotants du pouvoir politique avec le pouvoir économique.
Et le pouvoir économique et le pouvoir judiciaire. Et les nominations tout à fait récentes que fait en ce moment notre président, qui sont des nominations certainement tout à fait justifiées. Que ce soit à la présidence du Conseil constitutionnel, que ce soit à la présidence de la Cour des comptes, et que ce soit bientôt à la Banque de France.
Alors, il faut dire qu'à la décharge de notre bien-aimé président actuel, cette façon de faire avait déjà débuté avec le président, enfin avec le Premier ministre Pompidou, devenu président de la République, qui a gardé des liens un peu plus étroits avec la banque Rothschild, et qui a d'ailleurs permis en 73 de faire voter une loi qui interdit à la Banque de France de prêter à l'État à pratiquement 0% et qui oblige l'État à emprunter aux banques à des taux évidemment du marché,
bien sûr.
Ce qui fait que maintenant nous avons une dette abyssale qui nous lie complètement aux banques.
Et non seulement cela, mais ça ne fait que commencer. Tout le monde sait que dans 6 mois, les taux de la dette auront augmenté et ça deviendra insupportable parce que ça sera probablement entre 80 et 100 milliards qu'il faudra payer chaque année. Et pas à des Français, mais à des fonds de pension américains, allemands, ce qui permet à de nobles vieillards américains et non moins nobles vieillards allemands de vivre sur le dos des Français, comme d'ailleurs bon nombre de populations sahéliennes et nord-sahéliennes vivent sur la France. Mais les Français adorent leur république qui marche si bien et dont les institutions sont si brillantes.
On a l'impression. On a l'impression en tout cas au minimum, qu'ils ne veulent pas voir les choses pour le moment.
Non, ils ne veulent pas voir. Ils s'imaginent tous que tout va changer à partir du moment où c'est eux qui seront présidents de la République.
Alors, à ce propos, je voulais en parler plus tard, en conclusion, mais
vous savez
que je crois, le seul apport positif de mai 68 à mes yeux, c'est cette fameuse phrase « élection Kejakon ».
Oui.
Et qui a été doublée par Coluche, qui a dit un jour « si les élections servaient à changer quelque chose, ça fait longtemps qu'elles auraient été supprimées
». Oui, la réflexion est d'un très grand bon sens. Mais « élection Kejakon », je m'en souviens très bien. Et c'est une des oui. rares choses qui soit sortie à peu près correctement des pavés de mai 68. Oui, oui, vous avez raison.
Oui. Oui. Alors d'ailleurs, dans ces, pour faire une transition avec l'élection Kejakon, on a eu par exemple une démonstration extraordinaire avec le référendum de 2005
ah ben oui.
qui, contre la Constitution européenne que le président Sarkozy s'est empressé de
contourner.
De faire passer aussi, mais... de contourner par la voie législative. Mmh. Donc, effaçant 54% des Français qui avaient dit non.
Oui. Hein. Oui.
Voilà. Donc, bien avant notre bien-aimé président Emmanuel Macron, nous avons des prédécesseurs qui ont été à la hauteur.
Ouais, exactement. C'est une longue suite. Oui. C'est une longue suite. Oui. On peut remonter, hein, on peut remonter. On peut remonter à De Gaulle, on peut remonter au-delà de De Gaulle, on peut remonter à la Troisième République, on peut remonter à la Première République.
Oui, oui.
Eh oui.
Oui.
Comment un comité de salut public a pu imposer sa loi à une population de presque 30 millions d'habitants qui, en fait, refusait ses lois. Mais ils ont réussi à s'imposer. C'est comme ça que ça marche. C'est incroyable.
Et comment, grâce à l'esprit révolutionnaire,
oui.
Les guerres qui étaient limitées à des personnels de
oui.
professionnels
oui.
Sont devenues des faucheuses du peuple.
Exactement.
On a vu ça en 70, on a vu, et surtout en 14 et en 40. Oh,
bien sûr.
Hein. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fois Montesquieu et puis Thiers, qui était un homme politique, un historien redoutable, avait très bien compris que la République, que la démocratie républicaine était le meilleur rempart des possédants, parce que le peuple était lié par avec ses gouvernants, puisqu'ils étaient, ils avaient censément désigné ces mêmes gouvernants. Leurs gouvernants, c'était eux-mêmes, via effectivement une représentation de quelques personnages. Et donc, ils ne pouvaient pas se révolter contre eux-mêmes.
Oui. Le subterfuge était très fort.
Ah, c'était très fort. Très, très fort. D'ailleurs, Henri Guillemin, qui est un historien
oui.
fort intéressant, le souligne dans son histoire de Thiers, de la Commune, etc. Et j'encourage d'ailleurs tous les auditeurs à aller sur YouTube, vous tapez Henri Guillemin, et vous avez une série magnifique de conférences historiques, vraiment d'une clairvoyance et d'une culture remarquable. Alors, il faut que ces institutions respectent la volonté populaire, donc on voit bien qu'au travers notamment des référendums qui ne plaisent pas, eh bien il n'en est rien. On voit bien aussi que les élections, le système électoral et le système représentatif est un système qui permet en fait, dès le lendemain des résultats, d'oublier ce que le peuple a voulu et de permettre aux représentants de faire exactement ce qu'ils veulent et comme ils veulent, d'autant plus que, en ce qui concerne la censure ces représentants pourraient exercer contre le gouvernement, cette même censure est de plus en plus rare, parce que tout simplement...
tout le monde a intérêt à la conservation du système. Tout le monde
exactement.
A intérêt à la conservation du système. Et c'est pour ça que ce système se poursuit et continue imperturbablement. Il peut y avoir un scandale tous les trois mois, il peut y avoir des tragiques incidents, il peut y avoir toutes sortes de crises politiques. Ça se maintient, et ça se maintient parce qu'il y a trop d'intérêt pour les personnes qui ont réussi à capter le pouvoir à cette occasion-là pour le conserver. Et entre nous soit dit, c'est tellement plaisant d'avoir des motards devant sa voiture, d'avoir des généraux au garde à vous, d'avoir des estafettes à sa disposition, et quand vous parlez, d'avoir un petit aréopage de personnes qui vous considèrent alors que vous ne dites que des âneries. Parce que ce n'est plus que ça maintenant, la politique française. Oui.
Mais bien sûr, bien sûr. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est le paradoxe, si vous voulez, c'est que, en fait, la démocratie républicaine, c'est avant tout une démagogie générale, hein, une très grande démagogie, par laquelle les gouvernants pensent qu'ils vont pouvoir se maintenir longtemps au pouvoir en tout simplement privilégiant le court terme et sachant que le long terme, eh bien, c'est les autres, c'est les suivants qui vont s'en occuper. Ça, c'est quand même un des ressorts essentiels. Mais le deuxième ressort, c'est que il faut pas oublier que le peuple est l'ennemi numéro un des gouvernants. Les gouvernants ont comme amis les gens qui sont évidemment de leur bord, mais aussi leurs adversaires politiques. Ils sont de la même coterie. Ils ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire de conserver leur place et quand ils sont dans l'opposition, de faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir les ménagent parce que bah, justement, quand on est au pouvoir, on a intérêt à ménager l'opposition parce qu'un jour, on sera peut-être dans l'opposition. Donc
exactement.
Ces gens se tiennent par la barbichette. Ils se tiennent par la barbichette. C'est extraordinaire. Comment dire ? On se demande comment faire.
Où on va.
Et oui.
Merci, et oui. Cher Pierre. Et alors, donnez-nous votre avis en conclusion de cette...
Écoutez, en conclusion, malheureusement, pour une fois, je n'aurai pas de...
pas de solution. Non, personne n'en a.
On juge l'arbre à ses fruits.
Mais bien sûr.
Les graines, les gilets jaunes, la crise manipulatrice du Covid, la crise de la santé, les guerres, l'économie en berne, l'éducation la dette, etc., etc. Enfin, il y a une litanie, si vous voulez, qui ne s'arrête pas et qui est désespérante. Alors, où peut-on trouver un coin d'espoir ? Alors, peut-être un peu dans l'histoire, parce que l'histoire a montré que quand le système devient complètement irrécupérable, devient irréformable pour des tas de raisons, notamment celles qu'on a en partie énoncées auparavant, il y a mécaniquement une réaction, une détonation, un changement, une espèce de maillotique. Alors parfois cette maillotique est absolument épouvantable, bien sûr, mais et surtout dramatique et tragique, mais quand même, il y a un changement qui se produit. Si vous voulez, à un moment donné, quand il y a une solution instable dans une cornue, il y a un moment donné, il se passe quelque chose. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
Merci. Merci Pierre Lourdes, merci beaucoup et à la prochaine fois.
À la prochaine. Bonsoir.
Bonne soirée au fond du Cantal. Merci.
Au revoir et bonne
nuit. Au revoir. Je me tourne vers Emmanuel.
Non, Élie.
Vers Élie.
Et donc, je pensais en écoutant Pierre Lourdes à la phrase, j'étais plus sûr, mais il est bien sûr, d'Anatole France qui est « La République gouverne mal, mais elle se défend bien ».
Elle se défend bien.
Qui était un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire depuis un quart d'heure. Hein,
et Anatole France a fait une étude des institutions républicaines absolument remarquable. Cet homme de gauche, qui passait pour de gauche, Dreyfusard, il suffit de lire « Les Ormes du Mail » ou bien sa critique « Les dieux ont soif », qui est une critique de la Révolution française. Je crois que c'est les pages les plus violentes qui aient jamais été écrites sur le sujet. Mais bon, Anatole France devrait être lu dans nos écoles.
Il est très
d'autant
très
plus
oublié,
que
en fait,
tout le monde connaît son agnosticisme, donc il ne ferait pas peur à la République, au contraire. Bien, alors je me tourne vers vous, Emmanuel, et là nous allons faire maintenant, après la politique intérieure, la politique extérieure, avant de passer à la politique religieuse.
Et donc je proposais de donner la parole à un petit groupe des années 30. Hein.
Allô, allô, James ? Quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours. au bout du fil. Je vous appelle, que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, 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 ah, allô, allô, Martin, quelle nouvelle! Ma jument grise, morte aujourd'hui! Expliquez-moi!
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, cher Élie.
Allez, c'est difficile de céder à Réventura et ses collégiens, mais je vais essayer. Et donc, le titre, alors qu'il s'est un petit peu mélangé dans la présentation, donc je vais parler d'actualités internationales, comme Hilaire de Crémier m'y a invité. Et mon premier titre, c'était, ou c'est toujours d'ailleurs, la France, impuissance moyenne.
Hein. Impuissance moyenne. C'est très spirituel.
C'est très spirituel, et je vais expliquer que je le dois à quelqu'un, mais involontairement.
Oui.
Et donc j'ai fait un sous-titre, parce que c'est toujours difficile de choisir. Nouvel épisode, ça s'appelle le mouvement Emmanuel. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, puisque cela existe.
Voilà.
Et je vais invoquer cinq grands auteurs qui sont dans l'ordre chronologique. Hein. Nicolas Machiavel, hein, Émile Coué, Elwood Worcester, Raymond Aron et Richard de Sèze. Hein. Chacun aura sa place. Hein. Ça va être mon introduction, je vais essayer d'expliquer mes invocations. Alors, et donc je vais vous parler successivement de l'assassinat des dirigeants, technique hein, bonne ou mauvaise, hein, du rôle de la France, notamment dans en faisant un point sur le conflit au Moyen-Orient, et de la situation économique. C'est un peu la situation économique qui nous a amené à penser à « tout va très bien, madame la marquise », c'est un petit peu la politique actuelle du gouvernement Le Cornu, hein,
il faut
qui
tenir.
Répète « tout va très bien ».
Il faut tenir.
Il faut tenir.
C'est pas grave, les prix ne monteront pas exagérément. Et il n'y aura pas de pénurie.
Il y a juste un tout petit rien.
Il n'y aura pas de pénurie, c'est promis juré. Ouais. Vous pourrez partir en vacances et
y rester.
voilà. Et votez pour nous en 2027.
Surtout, n'oubliez pas. Et donc, je cherchais un titre pendant en fin de semaine dernière, alors que j'étais en vacances et que Hilaire m'a rappelé à mes devoirs et comment. En cours d'histoire, il y a un chapitre sur la puissance, donc on définit ce que c'est que la puissance, je vais revenir là-dessus. Et on parle souvent de la France, puissance moyenne, et en évoquant la situation au Proche-Orient, finalement, la France n'est pas une puissance moyenne, c'est une impuissance moyenne. Je me suis dit, mais c'est un excellent titre, j'ai trouvé ça très drôle. Donc du coup, j'ai tout de même pris mon téléphone pour vérifier si personne n'avait eu cette idée avant moi. Et une personne a eu cette idée avant moi. Je lui tire mon chapeau, puisque c'est notre rédacteur en chef, Richard de Sèze, hein, qui dans le blog Je suis français, il y a un an à peu près, utilisé le titre. Il ne l'a pas exploité d'ailleurs, impuissance moyenne, donc je lui rends hommage, et c'est pour ça que j'ai voulu...
Rendons à Richard ce qui est à Richard. Richard hein,
qui est sinon au notre roi, c'est au notre rédacteur en chef. Voilà donc, je me dis, il faut un sous-titre pour montrer qu'il y a un épisode dans une grande série. Et essayant de me renseigner sur ce que c'était exactement que la méthode Coué, j'en parlerai, je suis tombé sur un mouvement religieux américain de l'entre-deux-guerres, hein, réduit comme beaucoup de mouvements religieux américains à un pasteur et une église. Église qui s'appelait l'Église de l'Emmanuel, et donc sa méthode a pris son nom. Donc, comme un bon pasteur, hein, il voulait être, alors surtout un pasteur américain, il voulait être moderne, mais lutter contre le vice et les mauvais comportements. Il a essayé les méthodes modernes du début du XXe siècle, c'est-à-dire l'hypnose.
Je pense que c'est à ne pas confondre, je tiens à le préciser pour nos auditeurs, voilà. Avec l'Emmanuel.
Il a juste pris le nom de son église, et tout le monde a oublié ce que c'était le mouvement Emmanuel, mais dans l'entre-deux-guerres, on parlait d'une sorte de... C'était un peu l'alliance de la psychologie, de la psychanalyse, et du protestantisme, et il pensait qu'en utilisant l'hypnose et l'autosuggestion, il pouvait améliorer, en fait, le comportement de ses fidèles, ce qui sera un petit peu, j'en parlerai, la méthode d'Émile Coué au même moment en France. Et donc, voilà, ils bâtissent cette religion basée sur la prévention du vice par l'hypnose et l'autosuggestion, le mouvement Emmanuel. Voilà, parfois l'actualité, parfois l'histoire nous suggère des choses que nous n'aurions même pas osé imaginer. Et on peut se demander pourquoi le jeune Emmanuel Macron n'a pas appelé plus simplement son mouvement En Marche le mouvement Emmanuel, parce que
il est après
prévenir le vice, par exemple, le sentiment national par l'hypnose et l'autosuggestion, c'est sa méthode.
Il est à lui-même sa propre démonstration. Voilà. Et c'est ça qui est dans son esprit, c'est ça. Oui,
Donc, parce qu'à chaque fois qu'il y a justement cette idée de mouvement national, il met la hola, c'est effectivement une espèce de pare-feu qu'il utilise à chaque fois, tantôt en disant « Attention, le bruit des bottes revient, vous ne vous rendez pas compte, ça va contre l'intérêt des Français ». Ce qui est une erreur d'ailleurs, au demeurant. Mais...
Et donc le pasteur responsable, théoricien, unique patricien du mouvement Emmanuel, je tiens à s'appeler, s'appelait Elwood Worcester, qui est aussi un bon nom pour un pasteur anglais. Ouais.
Très facile à prononcer pour le petit
Elwood
français que je suis.
Elwood Worcester, enfin, ouais, comme la sauce qui va sur le,
oui, c'est...
sur le tartarin.
Impossible Elwood, à prononcer pour moi, hein. je tiens à le souligner.
Donc voilà, c'était mon
Votre introduction.
Alors... Et en essayant de revenir justement sur le conflit, je suis revenu sur une réflexion que j'avais eue. Je me souviens qu'avec avec Rock, hein, on avait parlé sur la technique de l'assassinat des dirigeants comme lutte notamment contre un pays étranger ou contre un mouvement insurrectionnel. Je crois qu'à l'époque, on avait parlé un petit peu pour la France, en disant que c'est une technique qui a été assez essayée au Sahel, notamment. On a essayé de supprimer en fait, les dirigeants des mouvements djihadistes divers, avec un succès somme toute assez modéré, puisqu'aujourd'hui, il y a encore des djihadistes et beaucoup moins de Français au Sahel.
Alors, modéré, plus ou moins, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de morts, parce que c'est sous François Hollande, d'ailleurs, qu'il y a eu le plus l'usage de cette technique. Je crois que c'est plus de 5000 commandements d'exécution sous son mandat, ce qui est assez amusant pour un président qui était soi-disant
pacifiste. Ça me paraît beaucoup, peut-être qu'on comprend là-dedans tous les morts du parti Elvas.
Tout à fait.
On vise le chef et tous les gens qui sont autour.
Mais en réalité, concrètement, ça n'a pas abouti à un véritable résultat exactement comme ça.
Alors pour le coup, comme l'on fait, donc c'était la comparaison, mais je pense que c'est eux qui l'avaient conçu au départ. Les Israéliens ont essayé ça pendant longtemps, ils ont essayé avec le Hamas, ils ont réussi à éliminer le dirigeant, mais le mouvement survit toujours. Et pour le coup, les Israéliens et les Américains ont essayé avec les dirigeants iraniens, et pour l'instant, l'État iranien est toujours là. On en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, on peut penser que cette technique n'est pas excellente. En fait, voilà, l'auteur que je voulais citer, c'était Nicolas Machiavel. Je pense s'il avait vécu, il aurait pu écrire un chapitre qui se serait intitulé de l'assassinat d'un prince rival ou de sa capture. Ce serait le chapitre 22, parce que je crois qu'il y a 21 chapitres. Et l'idée, ça peut être que non, parce que si on élimine un dirigeant, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. Celui qui prend sa place va être légitimé comme dirigeant parce qu'il promet de venger son prédécesseur et de poursuivre la guerre. Et en guerre, c'est le plus guerrier qui l'emporte, c'est assez logique. Et il n'a pas la légitimité, d'autant que quand il commence à guerrer, on l'élimine, il n'a pas la légitimité pour imposer la paix. Et donc, il faut un chef suffisamment respecté pour pouvoir imposer la paix. Enfin, tous n'en sont pas capables. Mais voilà, je pense que c'est le biais un peu de cette technique un peu simple qui paraît éliminons loi du talion, éliminons le prince et le dirigeant rival, mais ça n'est pas forcément efficace d'un point de vue
politique. Oui, il faut une respectabilité intérieure et une respectabilité extérieure. Il faut avoir cette ambivalence, sinon on ne réussit pas.
Sachant que cette respectabilité passe aussi par l'exécution des petits chefs haillons qui pourraient opposer une résistance. C'est d'ailleurs assez amusant parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les différents groupuscules islamiques, que ça soit Al-Qaïda, l'EI ou d'autres. À chaque fois qu'on faisait sauter une tête, tel leader, deux autres prenaient sa place.
Bien sûr.
Et donc l'assassinat de dirigeant pourrait fonctionner si dans le cadre d'une politique vraiment subtile, on a un dirigeant modéré dont on sait qu'il va pouvoir accéder au pouvoir. Mais apparemment, les Israéliens n'en sont pas à ce niveau de prévision et de contrôle.
C'est ce que pensaient sans doute les Américains.
C'est ce qu'ils pensaient.
Avec le président iranien, qui est plutôt de tendance modérée. Mais malheureusement, il est encadré par des gens, et puis il n'a pas la réalité du pouvoir. Donc, il est encadré par des gens qui n'en veulent pas.
Tout à fait, parce que les gardiens de la Révolution sont là pour maintenir la population sous leur égide.
Alors, de toute façon, c'est mon deuxième sujet, mais juste en conclusion, j'ai essayé de chercher des exemples dans l'histoire ancienne, et dans l'histoire de France, j'ai essayé de réfléchir à l'élimination des dirigeants, à l'élimination ou la capture des rois, et finalement, ça n'a jamais tout à fait, me semble-t-il, assuré la victoire. Je pense par exemple à la capture de Jean de Lebon, qui est fait prisonnier, qui est emmené en Angleterre, la France paye une rançon, mais finalement, le dauphin prend sa passe, plus ou moins, et l'esprit de résistance continue. Et Charles V sera d'ailleurs
un très grand roi.
J'ai pensé ensuite, comme exemple, c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul, à l'assassinat du duc de Guise, qui n'empêche pas la Ligue de lui survivre assez longtemps. Donc peut-être était-ce nécessaire pour qu'Henri III puisse se saisir du pouvoir, mais ça n'a pas vraiment supprimé le mouvement. Alors, on pourrait parler de l'assassinat d'Henri III lui-même, qui est inspiré plus ou moins par la Ligue, et qui est pour le coup qui est une défaite, puisqu'au contraire, c'est Henri IV qui le remplace plus rapidement et est obligé plus rapidement d'affirmer sa légitimité. Et donc, ça sert plutôt Henri IV et l'unité nationale.
Ce qui va faire avec brio, d'ailleurs, parce que Paris valait bien une messe et qu'il est rentré dans Paris suite à la première messe et à son abjuration à Chartres. Ça, on l'oublie trop souvent.
On pourrait dire que malheureusement, ça a mieux marché avec l'élimination de Louis XVI, qui était là.
Malheureusement.
Voilà.
Malheureusement, et Louis XVI n'a pas su se défendre.
Voilà. Et finalement, c'est notre genre. Et finalement, cette technique n'a fonctionné que dans une secte célèbre. Je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné d'ailleurs. Mais vous savez tous que le mot assassin vient de cette secte des Hachichas qui pratiquait pour essayer de faire régner la terreur au Moyen-Orient. Mais finalement, ils ont jamais réussi à prendre le pouvoir. L'assassinat des dirigeants étrangers d'ailleurs. De façon parfaitement œcuménique, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, si tu sais qu'ils soient menaçants.
Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant.
Et ça marche dans les jeux vidéo, apparemment, mais voilà, pas forcément dans la réalité.
Ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, le terme assassin vient du terme hashashin, qui veut dire les consommateurs de hashish, parce qu'on les droguait avant de faire des attaques suicides qui visaient justement à éliminer les têtes pensantes.
Tout à fait.
Et c'est assez intéressant parce que c'est ce que font encore de nos jours les terroristes.
Peut-être les dirigeants américains et israéliens, mais on ne sait pas
parce
quoi.
Parce que l'heure avance et que nous avons beaucoup de choses à dire.
Voilà, mais j'ai essayé là. Donc, du coup, j'en venais à mon deuxième titre, qui était la France, impuissance moyenne, qui est sur la guerre. Alors, on a déjà un peu parlé de la guerre, donc je vais peut-être juste essayer de faire un bilan. Elle a commencé cette guerre irano-américaine, qu'on qualifie parfois de troisième ou quatrième guerre du Golfe, ce qui montre que c'est compliqué et que c'est un grand ensemble. Elle a commencé par le 28 février, donc par l'attaque israélo-américaine contre les dirigeants iraniens, ce qui a suscité une réponse des Iraniens, à la fois contre Israël, contre les États arabes voisins et contre tous leurs voisins d'ailleurs, ce qui a suscité une re-réponse et une re-contre-réponse. Bref, tout cela a duré à peu près jusqu'au 8 avril, où on a eu un premier cessez-le-feu entre plus ou moins respecté entre l'Iran et les États-Unis, et le 16 avril avec un deuxième cessez-le-feu plus ou moins respecté lui aussi entre Israël d'un côté, l'Iran et le Hezbollah au Liban. Et on est dans une situation de
le Liban plutôt et le Hezbollah très peu, puisque on peut dire qu'Israël a continué
et ça continue mais avec moins d'intensité, mais ensuite voilà. Oui. Les guerres ne s'arrêtent pas en un jour, donc on est dans un combat un peu suspendu, un peu seulement, parce que de temps en temps, entre deux silences, un missile passe. Donc du coup, j'étais regardé un petit peu le bilan, qui serait de à peu près 3000 morts en Iran, 2000 au Liban, et une trentaine en Israël et une quinzaine de soldats américains à peu près. Voilà quel est le bilan en fait de
et
ce mois.
Et trois soldats français.
Et trois français, il faut le souligner, j'allais le finir. Voilà quel est le bilan en fait de ces six semaines de conflit. Quelles sont les conséquences politiques? Je dirais qu'il est un peu trop tôt pour le dire, on ne sait pas très bien. Alors oui, c'est un peu un échec américain parce que les Américains n'ont pas réussi à renverser le gouvernement iranien. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Peut-être qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre en l'espèce, ils n'ont pas perdu trop d'hommes. Sur le plan de l'économie, on va en reparler, c'est un petit peu différent. Sur le plan politique, c'est Ce n'est pas une victoire américaine, mais ce n'est pas non plus une défaite complète, parce qu'ils sont engagés relativement prudemment tout de même, notamment pour l'instant en n'envoyant pas d'hommes au sol. Hein. Mmh. Et donc, ça légitime. Enfin, pour le gouvernement iranien, c'est un succès parce qu'il est toujours là, mais son seul succès, c'est d'être toujours là.
Et à la condition qu'ils arrivent à garder le détroit d'Ormuz. Or, là, apparemment, Trump en a assez et il veut faire le nécessaire pour assurer la libre circulation du détroit d'Ormuz.
Oui, mais ça représente...
Et il en a les moyens.
Alors, on pense qu'il en a les moyens, mais c'est pas tout à fait sûr, parce qu'il y a deux conditions à cela. Tout d'abord, avoir des stocks de munitions suffisants, oui, ne serait-ce que pour les contre-mesures, sachant qu'il rappelle des munitions dans les différents pays qu'il couvre oui. au travers du dôme de fer et d'autres éléments d'équipement pour équiper Israël et leurs navires, ce qui est assez amusant, parce que jusqu'à présent, c'était le premier vendeur d'armes au monde. Oui. Et les voir dans une telle difficulté, ça amène à certaines questions. Ensuite, il y a une deuxième difficulté qu'il faut lever par rapport à Trump, c'est que bientôt, il y aura des élections de mi-mandat. Oui. Et c'est là aussi où il risque quand même de perdre ces élections, si jamais ça s'éternise de trop et que le coût humain ou économique est trop important. Donc, les conséquences politiques en politique intérieure américaine risquent d'être énormes.
Il le sait.
C'est pour ça qu'il essaye d'activer les choses. Mais encore faut-il avoir suffisamment d'armes.
De créer une diversion. Et ensuite, on ne sait pas très bien ce qui va advenir de l'Iran tout de même. Hein. Peut-être que Donald Trump s'accroche encore à cet espoir, mais qu'il aurait tort d'abandonner totalement. Alors, si ça prend 10 ans comme en Syrie, mais en Syrie, finalement, il a fallu 10 ans et le gouvernement Assad a été renversé. Hein.
Oui, mais pour être remplacé.
Alors qu'on le pense avec un, alors je ne dis pas que c'est une victoire pour l'humanité. Hein, oui. Je me méfierais. Mais il a fallu très longtemps et voilà. Alors qu'il n'est peut-être plus terroriste, est-ce qu'un terroriste ministre sera un ministre terroriste, enfin, parce qu'un terroriste président sera un président terroriste, on ne sait pas très bien. Voilà, et donc tout reste encore assez ouvert, et donc l'historien se gardera de conclure, puisque il n'est pas totalement impossible que le régime s'effondre un peu plus tard, mais il n'est pas totalement impossible qu'il ne s'effondre pas non plus. Parce qu'après tout, il a survécu tout de même à beaucoup de tentatives de soulèvement, de révolution, de coup d'État et de guerre depuis 40 ans. Hein.
Oui, d'autant qu'avant le 28 février, les premières frappes israéliennes, il ne faut pas oublier que les Israéliens avaient soufflé sur les braises en Iran en espérant que justement les émeutiers puissent renverser le gouvernement, ce qui n'a pas réussi, suite à quoi il y a eu les frappes. On peut dire un peu trop facilement.
Voilà. On peut dire qu'il y a une espèce de naïveté, finalement, occidentalo-israélo-américaine, à penser que les révolutions arrivent spontanément.
Oui.
Finalement,
les révolutions n'arrivent jamais spontanément.
Jamais.
Donc il faut des gens qui l'organisent, qui la dirigent et qui se mettent à leur tête.
Qui la financent, surtout.
Qui la financent, mais il faut trouver des chefs. Et je pense que les chefs, ils n'étaient plus là où ils ont été éliminés lors de la répression. Et ce n'était pas juste en bombardant que les gens vont se sortir spontanément dans la rue. Il faut une organisation, il faut des dirigeants. Et manifestement, il n'y avait pas de dirigeant iranien capable de le faire, en fait. Voilà. Et donc, c'est aussi, je dirais,
les dirigeants iraniens,
une sorte d'idéalisme politique américain qui pense que quand les gens ne sont pas contents, ils vont dans la rue et puis tout va mieux ensuite. Hein,
quelle est votre vision là, pour l'avenir ?
Alors, du coup, non, je n'ai pas de vision pour l'avenir. Ça dépend. Je vais laisser l'histoire décider à ma place. Oui. Et le hasard, j'étais plus, d'où le titre d'impuissance française, sur...
La France dans tout cela.
Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pas grand-chose. On a l'impression que toujours, on voit que le président Macron gesticule, il fait des gestes, il change d'avis, il dit quelque chose, il dit son contraire, il change de politique jusqu'à ce qu'elle soit illisible. On a l'impression de quelqu'un qui gesticule, qui fait des moulinets avec ses petits bras. Mais Donald Trump, il fait des moulinets avec un fléau de guerre, donc ça fait plus mal. Oui. Emmanuel Macron, il agite ses petits bras et ça fait pas grand chose.
Depuis un an, il fait pratiquement un à deux voyages par semaine.
Alors il a trouvé l'endroit, peut-être qu'il va rester là. L'Arménie, apparemment, j'écoutais France Culture, je crois, dans la voiture arrivant.
Vous avez écouté chanter.
Je ne l'ai pas écouté chanter, j'ai manqué, il pleuvait déjà beaucoup. Mais voilà, ils n'ont trouvé que des Arméniens qui parlaient français, parce que manifestement, ils n'avaient pas de journalistes parlant arménien. Oui. Mais tous les Arméniens parlant français, il y en a quelques-uns, étaient contents. Ils disaient, il est merveilleux ce président, il est sympathique, qu'est-ce qu'il est gentil. Et donc voilà, il a raison d'aller là, parce qu'en France, c'est plus difficile, même au fin fond du Cantal ou de l'Ardèche ou de la Lorraine, je pense qu'il aurait du mal, en fait. Alors, à part dans les quatre villages morts pour la France, là, peut-être que personne.
Oui, encore.
Il y en a six. Si
les morts se réveilleraient. Il y en a six.
Il y en a six. Ouais. Mais après, ce qui est assez amusant, c'est que les Arméniens ont oublié le fait que Emmanuel Macron les a laissés se débrouiller seuls pour le Haut-Karabakh. Et c'est là
l'erreur. Devant l'Azerbaïdjan, oui.
Tout à fait.
Ensuite, est-ce que la France a intervenu
Elle est intervenue un peu à la fin, soi-disant pour pacifier, mais on aurait pu faire plus, comme toujours.
Pour le coup, c'est la chasse réservée des Russes, donc je pense que c'est pas exactement l'endroit où on a plus de plumes à perdre que de. On aurait, je sais pas. Et donc, je me suis rappelé, j'ai essayé de, j'ai été rechercher cette célèbre définition de Raymond Aron, qui est un peu la définition classique de la puissance aujourd'hui, qui est j'appelle puissance sur la scène internationale la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté politique à d'autres unités de puissance. Hein. Est-ce qu'on a les moyens d'imposer quelque chose? Mais tout simplement, c'est non pas que nous ne soyons pas potentiellement une puissance. Après tout, on est encore quelque chose entre la 7e et la 10e économie mondiale.
Oui.
Certes, nous ne sommes pas les États-Unis, certes, nous ne sommes pas non plus la Chine, mais ensuite, on n'est pas très très différent de l'Allemagne. On a une économie moindre, mais on a certainement pour l'instant armée plus active et supérieure.
On a la force de dissuasion.
Voilà, donc on est le premier, le deuxième, le troisième. Donc on n'est pas
on
tout à fait
une industrie nucléaire très
moyenne puissance. On est une puissance et sans doute surtout une impuissance. Mais peut-être que le problème dans tout cela, c'est qu'on a une capacité, mais on n'a plus de volonté politique.
Mais c'est ce qui est très net.
Voilà. Il suffit est-ce qu'il y a une politique étrangère française? Je suis incapable de la décrire, même en essayant de jouer les professeurs d'histoire qui m'ont étudié et non plus le polémiste. Comment décrire la politique? Parce qu'il n'y en a plus. Voilà.
Il y a des mots. Des mots.
Pour ça, en plus, concernant une politique internationale, il faut aussi avoir des gens adéquats. Or, avec l'UE, nous avons abandonné cette capacité qu'on avait d'avoir des gens capables d'échanger avec d'autres puissances pour permettre justement la résolution de situations complexes. Malheureusement, maintenant, on a confié les clés du pays et de l'Union européenne à des technocrates complètement déconnectés de toute réalité. On va penser à Van der Leyen qui va signer des accords internationaux sans l'aval des autres pays européens. C'est quand même fort.
Sans l'aval de la France.
Notamment. Mais c'est quand même assez fort. Je veux dire, on n'a même plus la capacité de taper du poing sur la table pour dire « non, ça suffit ». Maintenant, on envoie nos propres spécialistes, on va essayer d'atténuer les choses, même plus. Au même titre qu'on avait une carte à jouer concernant l'Iran, parce que nous avions quand même jusque-lors une relation assez privilégiée avec eux, puisque Khomeini n'est pas revenu par l'opération du Saint-Esprit. Les Américains ont œuvré, mais c'est tout de même la France qui a frété un avion et du matériel pour qu'il puisse y aller. On avait quand même quelque chose à faire. Comment se fait-il qu'on n'ait pas proposé aux Iraniens de créer un couloir sanitaire pour permettre au commerce de passer, en disant la France reste sur le côté, néanmoins vous nous permettez d'escorter nos navires, éventuellement ceux de vos alliés, mais nous n'interviendrons pas dans cette situation. Là est peut-être l'erreur de la France. Mais comme vous le dites, hélas...
Il faut une volonté politique, il faut penser que la France puisse avoir une puissance et une volonté, et non pas juste se coordonner avec ses voisins et aller...
L'affaire d'Algérie est tout à fait typique, c'est...
Oui, et puis on le voit encore maintenant avec le dernier journaliste qui est encore là-bas.
Oui, bon, et Macron qui traite de maboule toutes les personnes qui voudraient avoir un langage de fermeté à l'égard de l'Algérie, ça suffit à montrer à quel point ce garçon n'a absolument mais aucun sens de la dignité française. La seule chose qui l'intéresse, c'est son pouvoir, c'est tout.
Donc, puisque ensuite on va parler de choses qui vont espérer un peu, troisième et dernier point sur les conséquences économiques de la guerre, pour reprendre un titre un petit peu classique. Et donc, on a l'impression que pour l'instant, donc c'était d'où Madame la Marquise, il ne se passe rien et que comme le nuage de Tchernobyl et les premiers cas de coronavirus, tout s'est arrêté à la frontière. Ce qui suppose que de temps en temps, on a encore des frontières. Et le gouvernement... Le cornu espère, et on voit le Premier ministre qui dit non, ce n'est que temporaire. Et oui, effectivement, si ça n'est que temporaire, si ça dure quelques jours, on peut penser que l'économie mondiale va retomber sur ses rails. Mais sauf que voilà, ça fait maintenant 6 semaines que ça dure, et on n'est plus dans quelque chose de 3 jours. Donc, d'expérience, quand vous avez un choc pétrolier, ça crée une crise économique. Donc, on a tous en tête l'exemple de 1973, suivi pour d'autres raisons par celui de 1918. qui est un choc pétrolier, qui révèle en fait d'ailleurs un certain nombre de failles d'une économie qui est en train de changer de modèle au début des années 70. Donc le choc pétrolier n'est pas tout. On peut penser qu'il va y avoir un choc et une crise économique qui commence par un choc inflationniste, ce qui est assez classique, avec finalement sans doute un seul espoir. Enfin, derrière l'espoir, il y a du désespoir. Hein. C'est que la situation démographique est telle que nous avons plus de chances, moins de chances de connaître un chômage massif qu'il n'y en a eu dans les années 70, parce que je pense que le chômage massif des années 70, 80, 90 est en très grande partie, je pense que les économistes ont eu tendance à le sous-estimer, dû en fait au bouleversement démographique, c'est-à-dire l'arrivée des générations du baby-boom dans une société qui n'arrive pas à s'adapter en fait sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de jeunes qui entrent sur le marché du travail. Sur le plan du chômage, c'est un avantage, mais à force de ne pas avoir de chômeurs, on risque de ne pas avoir de jeunes du tout. C'est un peu ce qui est en train d'arriver. Donc, derrière l'espoir, il y a beaucoup de désespoir. Donc, pour que tout aille mieux, on peut utiliser la méthode de M. Émile Coué, docteur en pharmacie à Troyes. Aucun rapport avec les andouillades, encore un petit peu. Une certaine naïveté, qui pensait que ses clients allaient mieux. Je ne sais pas si c'est les clients ou les patients d'un pharmacien. Enfin, je ne sais pas.
Oui.
S'ils s'étaient convaincus qu'ils allaient guérir, hein, donc il leur disait « je pense que vous allez beaucoup mieux », et il trouvait que ça allait mieux, il a mis au point une méthode, il fallait répondre. On voit bien qu'il y a une petite inspiration religieuse derrière, d'une France en train de perdre sa religion. Il fallait se répéter 10 fois le matin et 10 fois le soir, avec une petite cordelette pour compter ces 10 fois. Ça rappelle
comme
un petit peu.
Comme un bisonnier, ça.
Tout va très bien.
Madame la marquise.
Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Je vais m'arrêter là. Et ça devrait marcher. Donc, c'est ça, la méthode Coué. Peut-être essayons tous ensemble, ça pourra marcher.
Merci beaucoup, Elide. Merci beaucoup. Alors, je lis à... Mais ça concerne le discours précédent, peu importe. Bonsoir. Ce qui caractérise la démocratie dite représentative, c'est surtout l'alternance électorale court-termiste, donc sans projet d'avenir à long terme. Parfaitement. Il s'ensuit une instabilité des lois, donc une insécurité juridique. L'instabilité juridique met en cause la légitimité du pouvoir. Parfaitement. Le processus final est une désagrégation de l'État, c'est ce que nous connaissons, réduit à des mécanismes techniques de plus en plus contraignants. La stabilité ou au moins la prévention de la révolte ne peut être assurée que par un État profond, lequel nie toute véritable démocratie. La représentativité est réduite à un changement d'étiquette au gré des élections, dont on peut constater qu'elles sanctionnent toujours le pouvoir en place au profit d'espoirs fictifs de changement perpétuel. Bonne soirée. Merci, cher auditeur.
C'est pas un message d'espoir.
Vous avez, vous partagez le même pessimisme que nous sur nos institutions, sur les politiques qui sont menées par les personnes qui se sont installées dans ces institutions. Et tout cela est évidemment extrêmement inquiétant parce qu'on sent qu'il n'y a aucune vision véritable. Quand on pense que notre président, coprince d'Andorre, est allé faire une petite tournée en Andorre, puisqu'il il voyage partout. Et la première chose qu'il a réclamée face à l'autre coprince, qui est tout simplement l'évêque espagnol de la ville d'à côté, c'est de promouvoir l'avortement dans un État. La principauté d'Andorre est une principauté catholique comme l'État de Monaco.
Oui,
c'est la seule chose qui préoccupe ce coprince d'Andorre. Mais on lui demande de quel droit,
à le coprince.
Voilà, c'est franchement... Déjà, lui, il a sur les mains la constitutionnalisation, c'est-à-dire par conséquent la mise à mort de centaines de milliers d'enfants, bientôt d'infirmes et de vieillards. Enfin, et c'est ça, sa vision. Ce n'est rien d'autre que ça.
Mais c'est une vision de mort.
Et peut-être une guerre future qui permettrait de créer la Fédération européenne, parce qu'il y a cet aspect des choses aussi.
Oui.
Macron est dans le fond, il est là presque à souhaiter la guerre Ukraine, que ça se dégrade entre l'Ukraine et la Russie.
Ça donnerait une raison d'être. Hein.
Pour justifier l'existence de son, de son grand plan pour une communauté européenne de défense.
Alors j'ai lu hier soir, puis ensuite on va laisser la parole à l'espoir, mais un genre de roman policier d'espionnage qui était pas mal, qui s'appelait Le Quatrième Stratagème, par quelqu'un qui s'appelle Louis Berger, et qui met justement, on voit apparaître un président de la République française qui n'est pas nommé, mais qui est exactement celui-là, bien antipathique, et dont le dessein secret semble être de démanteler les services français, puisque ce qui compte, c'est la politique européenne.
Bien sûr, mais c'est exactement ça.
C'est déjà fait, notamment avec le retrait de nos grands politiques.
Voilà, alors c'est ce qu'il a fait avec le nucléaire lors de son premier mandat. Ensuite, il s'est rendu compte que, évidemment.
C'était bien utile quand même pour nous chauffer en hiver.
Et puis surtout, il y a quand même des militaires qui lui ont dit il faut faire attention. Et puis des ingénieurs et des techniciens. Alors il est revenu dessus. Mais on voit très bien que c'est un garçon qui n'a absolument mais aucune formation faite pour être chef de l'État. Aucun de ceux qui l'entourent.
Un bon chef de l'État devrait, en tout état de cause, quand il a un doute sur une notion ou, disons, sur l'usage qu'on pourrait faire d'une chose, de prendre conseil de sa chance. Et ça, malheureusement, il ne le fait pas parce qu'il a une haute opinion de lui et avoir une simple idée justifie, de son point de vue, toute intervention, quand bien même elle irait contre l'intérêt de la France.
Oui. Mais justement, il ne croit pas à la France. Je crois que c'est ça.
Non, c'est surtout ça.
C'est là, notre transition vers ce que vous avez proposé.
Oui, il ne croit pas à la France.
Comment peut-on être un bon prince sans croire en son pays
Eh bien, on ne peut pas. C'est malheureusement le mot.
Alors, nous en venons à votre intervention, cher Charles.
Tout à fait. Alors, justement, je vais essayer de remettre un peu de baume au cœur de tout l'espoir.
Oui, vous allez nous parler de la foi, enfin de la...
Tout à fait, du renouveau catholique.
Du renouveau catholique.
Alors, chers amis, ce soir, comme indiqué par Hilaire, je vous évoque le renouveau catholique. Alors, bien évidemment, c'est avec joie que je vais l'aborder avec vous ce soir, le RC, non pas pour Radio Courtoisie, mais pour le renouveau catholique. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec bien évidemment Radio Courtoisie, ni avec celui du renouveau catholique, qui était un mouvement qu'on a vu au début de la Troisième République et qui s'est estompé suite à la Première Guerre mondiale, on se demande pourquoi, et qui a été constitué d'ailleurs en opposition à l'aspect laïcard voulu dans les premières années, ou plutôt les premières décennies de la Troisième République, et qui a permis justement l'émergence de grands personnages, de grands écrivains. On va penser notamment à Peggy,
Qui d'ailleurs
amène bientôt sur les chemins de Paris à Chartres le grand pèlerinage, qui d'ailleurs est un des sujets que je vais aborder un tout petit peu plus tard, et qui malheureusement s'est vu diminuer suite à la Première Guerre mondiale, comme je l'évoquais un peu plus tôt. Donc je vais vous parler plutôt d'un phénomène français, qui n'est pas que français, mais qu'on constate particulièrement en France actuellement, notamment malgré le maintien et le souhait d'ailleurs de certains politiques et journalistes trop grassement payés par nos impôts de voir disparaître la religion catholique. Ainsi, on va partir d'un constat. Le constat est le suivant, et d'ailleurs assez déplorable au départ, puisisque dans les années 60, en gros entre 60 et 62, on estimait qu'en France, il y avait à peu près 90% de la population qui était croyante. Attention, ça comprend aussi bien les catholiques que les chrétiens, comprenant les protestants et autres mouvements, ainsi que les autres religions qui, à l'époque, étaient minoritaires.
À l'époque, on remplissait des petits papiers et il y avait marqué « religion », en particulier pour les personnes qui faisaient leur service militaire. Les trois quarts des Français mettaient « religion catholique », sans aucun problème. Même ceux qui, évidemment, ne pratiquaient pas. Mais ils mettaient religion catholique.
Parce que, mine de rien, quand vous faites un tour, ne serait-ce que sur... vous évoquiez un peu plus tôt, cher Élie, les champs de bataille de Lorraine. Si vous allez à l'ossuaire de Douaumont, c'est impressionnant le nombre de croix. Bien évidemment, il y a des protestants en dessous, mais vous avez majoritairement des catholiques. Cette jeunesse de France, d'ailleurs, qui va manquer à la France après-guerre pour la reconstruire. Parce qu'on va estimer qu'on atteindra à nouveau une population à peu près équivalente dans le courant des années 20, fin des années 20, début des années 30.
1 500 000 morts.
Tout à fait.
C'est pas rien.
Et un quart de million d'hommes, rien qu'à Verdun. Je m'en rends particulièrement compte parce que j'ai eu la chance d'avoir un arrière-grand-père qui a été un peu malheureux tout au long de la guerre 14-18, parce que ce pauvre homme, à chaque fois qu'on le mettait au repos, c'était sur les endroits où ça allait péter. Donc vraiment, on peut dire qu'il était poissard et qu'il a été mis au repos en début 16 à Verdun au pire moment. Mais bon, ça c'est une chose. Nous avons donc perdu énormément de jeunes et bien évidemment, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart des athées qui étaient présents dans les lignes, très vite, avaient besoin de se rattacher à quelque chose. Donc soit ils devenaient de purs laïcars, pour les quelques-uns qui se sentaient surhommes, et pour les autres, se rapprocher de la religion. On pensera notamment à l'œuvre d'un certain nombre de pères à Verdun qui vont rattacher leurs hommes à leur foi, notamment, et par le secours qu'ils vont apporter aux mourants. Mais toujours est-il que nous constatons qu'entre les années 60-62, on avait 90% de la population française qui se disait croyante, que de nos jours, donc en 2020, on estime que ça représente à peu près 51% de la population française. Dedans, on estime, alors je me suis appuyé sur les chiffres de l'INSEE et sur des éléments obtenus auprès de la CEF, donc la Conférence des évêques de France, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'acronyme, et je vous prie de m'excuser pour ces acronymes, qu'il y a 38% de chrétiens. Alors vous me direz, 38%, qu'est-ce que c'est ? Ça me paraît un peu obscur. Effectivement, dedans, on comprend les protestants, toutes branches confondues, luthériens, calvinistes, évangélistes et autres. Et bien évidemment, dedans, les catholiques représentent 29% de ce tout. C'est-à-dire qu'en quelques décennies, nous avons vu la population de croyants s'effondrer en France quand même de près de 39 points. C'est énorme. Est-ce que la France est devenue plus laïcarde parce que la 3e, puis 4e, puis la 5e République ont bien fait leur œuvre? Je ne crois pas. Je pense que c'est dû tout d'abord aux 30 Glorieuses, au fait aussi qu'on ait eu le Concile Vatican II qui, au travers de son écuménisme, a peut-être poussé certains à se dire bah, finalement, si les autres sont proches de Dieu, pourquoi avoir besoin d'aller à l'Église, et ainsi de suite.
C'est comme ça qu'il a été compris.
Tout du moins, et mal compris, malheureusement.
Dans le public.
Dans le public, il a été mal compris.
Et y compris chez les autorités.
Ecclésiastiques.
Oui.
Effectivement, et ça a amené malheureusement à des situations extrêmement dommageables, où on a détruit magnifiques œuvres religieuses.
Et surtout, le fait que la religion n'était plus n'était plus une certitude supérieure. Ça devenait quelque chose de relatif. Et ça, il y en a un qui l'a très bien montré, c'est le pape Benoît XVI.
Tout à fait.
Le relativisme, c'est ce qui a tué la religion catholique.
Et
je ne crois que ce que je pense. Voilà, donc c'est profondément démocratique. Donc on choisit une religion, la religion.
Tout à fait. Et puis on rejette ce qui ne convient pas à notre esprit.
Ben, oui,
ce qui est une erreur.
Ce qui vient d'en haut. Voilà, ce qui est une révélation.
Mais c'est quelque chose qui n'est pas propre au catholicisme. Oui. Parce qu'on le voit aussi dans le judaïsme. Ne serait-ce que pour citer un personnage assez connu dans le judaïsme, c'est Einstein qui, pendant une bonne partie de sa vie, est lui-même devenu laïque et même non pratiquant. Et sur la dernière partie de sa vie, il a eu un retour à la foi, effectivement, suite notamment aux différents usages de la bombe atomique, en se disant malheureusement, ce n'est pas forcément une bonne chose.
Mais ce n'était pas un retour d'ailleurs au judaïsme, c'était plutôt un retour à Dieu.
Oui, enfin, je me suis mal exprimé, effectivement. Vous faites bien de le souligner. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce mouvement, disons, d'accélération, de disparition des croyants, on pourrait dire qu'il s'est accéléré ces dernières années, notamment parce qu'en 2010, encore selon l'INSEE, on estimait qu'il y avait 63% de la population française qui s'estimait croyante. Bon, c'est une chose. Et pourtant, on en arrive au constat suivant, c'est que en 2020, c'est-à-dire juste avant Covid, la population dite croyante représentait seulement 51%. Bon, c'est pas énorme. Pourtant,
Et très peu de pratiquants.
Effectivement, c'est encore moins.
Entre 2 et 3%.
C'est très faible. Mais c'est comme ça dans toutes les religions, étonnamment. Oui. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à lire des graphiques de l'INSEE. Je vous assure, c'est assez barbant, parce que bien évidemment, c'est écrit avec un langage technocrate, comme on sait si bien le faire en France. Mais suite à ce constat, on peut évoquer maintenant quelques éléments réjouissants. Effectivement, Si on prend le nombre de baptêmes d'adultes, alors du point de vue de la CEF, donc de la Conférence des évêques de France, entre 2016 et 2026, le nombre de baptêmes d'adultes a été multiplié par 10.
Oui.
Mais le
nombre de baptêmes d'enfants
a diminué. Tout à fait, parce que
en fait, c'est une compensation qui se fait.
C'est une compensation, mais...
Mais heureusement, qui est très intéressante de ce point
aussi,
de vue-là.
C'est aussi à relativiser à deux titres. Oui. D'abord, effectivement, il y a une diminution des baptêmes d'enfants. Oui. Alors, les enfants, pour la Conférence des évêques de France, c'est entre 0 et 11 ans.
Oui.
Ensuite, ils parlent de pré-adultes, de jeunes adultes en devenir, c'est de 11 à 17 ans. Et baptême d'adulte, c'est-à-dire à partir de 17 ans jusqu'à plus soif. Et justement, ce constat, je l'ai fait aussi à titre personnel, puisque j'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille catholique qui s'est beaucoup rapprochée de la tradition quand j'étais plus jeune, notamment à partir de mes 4 ans. Et lorsqu'on avait un baptême au sein de la fraternité dans laquelle j'allais, donc la fraternité sacerdotale Saint-Pierre à Fontainebleau, c'était bien le bout du monde et on se disait c'est très beau. Et pourtant, cette année, au sein de cette paroisse que je côtoie encore de temps en temps quand je rentre voir mes parents, il y avait 4 baptêmes d'adultes, ce qui est assez remarquable. Et j'ai eu l'occasion de constater cette même chose au sein de...
Je peux vous dire, on a eu droit à 12 baptêmes et 12 confirmations dans la nuit de Noël dans une paroisse de campagne que je fréquente et qui est une campagne tout à fait ordinaire et puis qui appartient au diocèse.
Tout à fait, et j'allais rebondir là-dessus parce que j'ai fait exactement le même constat.
C'est de fait considérable, on n'aurait jamais imaginé une chose pareille il y a...
Il y a encore 20 ans.
Oui, encore 20 ans ou même il y a 50 ans. Pour préciser les choses, mais c'est uniquement par souci de précision, il faut quand même se rendre compte qu'il y avait des territoires en France qui étaient profondément catholiques. Moi, je peux en parler puisque je suis de l'Ouest. Et vous aviez des villages entiers, mais le village entier était catholique. Tout le monde, absolument tout le monde à la messe, même s'il y avait les gens savaient leur latin par cœur. Les dames allaient aux vêpres du soir, elles chantaient leurs 5 psaumes de vêpres absolument par cœur. Et elles ont été furieuses le jour où des experts à Rome ont jeté dans les micros qu'elle ne comprenait rien à ce qu'elle chantait quand elle chantait le Magnificat. Je me souviens de l'une d'entre elles me disant « Mais c'est comment ça on chante et on ne sait pas, mais ça fait 2000 ans qu'on chante », me disait-elle, « que dans nos paroisses, on chante enfin, ». Ça faisait moins de 2000 ans, mais c'était quand même extraordinaire. Et ça, c'est ce qui a été perdu. C'est-à-dire qu'il y avait, même s'il y avait des pays qui étaient beaucoup moins christianisés que d'autres, il y a toujours eu en France, dans Lyon, dans des pays comme ça, les pays de Paul Bert, etc., un anticléricalisme assez violent, généralement d'ailleurs issu d'un cléricalisme qui pouvait être abusif. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous aviez en France des territoires entiers qui étaient entièrement catholiques, et c'est, on va dire, c'est les institutions ecclésiastiques qui les ont un peu perdu, même tout à fait perdu. Je pense à la Bretagne, à la Vendée, et la même chose en Alsace, la même chose en Lorraine, qui étaient des pays profondément catholiques. Il n'y avait pas que.
Il faut pas oublier qu'en Auvergne,
il y avait des villages entiers qui allaient à l'église. Mm-hmm. Et le curé était un personnage extrêmement important. Il faut se rendre compte qu'il y a encore 60 ans, il y avait un curé par village, c'est-à-dire qu'en France, il y avait 50 000 prêtres. Aujourd'hui, il y en a 8 000 de valides.
Ce qui est intéressant, c'est quelque chose sur lequel on ne parle pas sans doute pas assez, c'est une foi qui est aussi une sociabilité, qui est l'expression d'une
bien
communauté
sûr.
Dans un village où on y croit, on n'y croit pas, parce qu'il y a quelques esprits forts. Hein,
toujours,
mais ça fait partie du rite que l'on doit à sa famille et que l'on doit à ses voisins. Moi, je passe mon été dans un petit village de famille où il n'y a pas d'église. Hein, parce qu'il y a un temple, et c'est une sécession protestante du village voisin à coup de pierre il y a un siècle.
En Alsace, ça, non
Non, c'est en Ardèche. Hein.
En Ardèche, oui, tout à fait. Dans les Cévennes aussi.
Voilà, c'est juste à côté.
Une alternance de village catho.
Voilà, et donc pour le coup, le village protestant a été créé par les Républicains. La commune protestante a été créée par les Républicains pour avoir un électeur de plus pour le Sénat. C'était important. Mais encore aujourd'hui, mais je crois que c'est encore le cas dans beaucoup de campagnes où les gens continuent à vivre, tout le monde est là pour les enterrements. En fait. Voilà, on va au temple, qu'on soit catholique ou qu'on soit protestant, ou on va à l'église si ça se fait dans l'église du village à côté. Mmh. Et tout le monde est là et on participe au culte commun. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on accomplit le rite pour les autres. On croit à ce qu'on veut croire et à ce qu'on ressent.
Et c'était la même chose pour les mariages. Enfin. Mm-hmm.
Et bien, c'est la même chose pour les mariages.
Bon, continuez alors, parce que vous avez 10 minutes devant vous et il faut que vous traitiez bien le sujet.
Il faut que je traite bien le sujet. Et donc,
moi, vous interromps.
Au-delà de ce constat qui a été la multiplication par 10, ce qui est encore plus étonnant, c'est l'accélération qu'il y a eu ces dernières années. Puisque entre 2023 et 2026, le nombre de baptêmes d'adultes a été multiplié par 3. Ainsi, on constate, si je ne vous dis pas de bêtises, que pour les baptêmes d'adultes, en 2026, nous en sommes à 13 000, c'est-à-dire au-delà de 17 ans. Et en termes de baptêmes d'enfants, nous sommes à 8 380 sur l'ensemble de la France. Ça représente un total de 21 380 baptêmes. Voilà. Alors que vous prenez 2023, le nombre de baptêmes d'adultes était de l'ordre de 5463. Et c'est d'autant plus intéressant que, post-Covid, il y a eu un retour effectivement à la foi, parce que beaucoup de gens ont été coupés, ils ont eu besoin effectivement, comme le souligne Elie, de ce lien qu'est la vie du village au travers de l'Église. Mais beaucoup de journalistes et d'autres politiques pensaient que c'était temporaire. Étonnamment, il y a une espèce d'accélération qui se constate et se voit augmenter d'année en année. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui a poussé ces jeunes? Quelle est la composition de ces baptêmes?
C'est intéressant.
Quel est le terreau? Et étonnamment, dites. Au travers de quelques chiffres que je vais vous donner, je vous assomme de chiffres ce soir, malheureusement, on constate que pour l'année 2026, 34% des baptisés sont d'un milieu ouvrier ou artisanal. Et ça, c'est d'autant plus étonnant. C'est d'autant plus étonnant que, effectivement, la déchristianisation s'est d'abord faite dans ces terreaux-là, notamment avec les principes marxistes qui étaient que Dieu est l'opium du peuple et qu'il sert à servir le peuple afin de les soumettre aux bourgeois et de se racheter une conscience. Bon, ça, c'est une chose. Néanmoins, on a aussi au sein de ces jeunes, de ces nouveaux catholiques, 25% d'étudiants, ce qui est énorme. Oui. C'est-à-dire que des jeunes, notamment parmi eux, il y a, si je ne vous dis pas de bêtises, 55% qui viennent de familles non catholiques, non pratiquantes.
C'est très intéressant.
Et ça, c'est d'autant plus intéressant.
Et je crois que ce qu'il faut que vous souligniez, que ce soit les ouvriers, les paysans, ou que ce soit les étudiants, c'est, alors ce mot ne plaira pas à nos ecclésiastiques experts, etc., c'est l'identité.
Tout à fait.
Il ne s'agit pas de ramener ce mot à des éléments de base insuffisants, parce que c'est au contraire d'une très grande profondeur, en l'occurrence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là étaient privés de ce qui constituait l'identité de leur peuple.
Et de leur famille. Souvent, c'est plus souvent en se disant, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère vient de décéder.
Oui.
J'assiste à son enterrement en rite catholique, ou protestant, que sais-je. Et là, question. Oui. Pourquoi se fait-elle enterrer? Et effectivement, au sein même de ces chiffres, ce qui est étonnant, c'est que 40% de ces nouveaux baptisés, de ces nouveaux catholiques, sont devenus catholiques suite à une question, devrais-je dire, à une épreuve. Alors l'épreuve pouvant être un décès...
Pour que vous sachiez le nombre de minutes qui vous reste. 8 minutes.
Je vois tout à fait. Suite à une épreuve. Et c'est d'autant plus intéressant parce que j'ai eu l'occasion, comme je vous l'évoquais un peu plus tôt, d'assister dans une petite église de province, en l'occurrence en Essonne, au baptême, étonnamment, de 12 adultes aussi.
Ah oui.
Et d'un enfant.
C'était un père... Châtillon ou d'un...
Ah, je ne préciserai pas parce que je me dis éventuellement ça pourrait porter préjudice aux personnes pour lesquelles j'étais allé au baptême. Et il s'avère, très beau baptême tout d'abord, qui n'était pas dans le rite que j'affectionne, qui est le rite tridentin, mais je considère que l'Église catholique est une et indivisible, comme la République en somme.
Et que surtout, et qu'il peut y avoir plusieurs... de la vie éternelle, et par tout conséquent, quand elle valide quelque chose, elle le valide vraiment.
Voilà. Tout à fait, ce qui change d'autres mouvements. Et ce qui est d'autant intéressant, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à vouloir se rattacher à une religion vis-à-vis de laquelle ils n'ont que très peu d'attaches, éventuellement une grand-mère ou une arrière-grand-mère, hein, souvent qui a pu leur mettre le pied à l'étrier. Eh bien, vous l'avez souligné, et c'est justement le deuxième point que je voulais aborder, c'est parmi les raisons de des conversions, c'est l'identité. Effectivement, j'ai eu la chance d'échanger avec un certain nombre de jeunes qui se sont convertis, voire même de très jeunes, parce que dans les chiffres, il faut se dire que on a 82% de moins de 40 ans qui se sont convertis cette année, qui ont été baptisés et qui sont donc catholiques. Eh bien, parmi eux, souvent, j'ai eu comme retour, c'est parce que j'avais besoin de me rattacher à une identité et à quelque chose qui aille au-delà de ma simple personne.
Mais bien sûr.
Et qui me rattache aussi à l'histoire familiale, parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était catholique, j'ai eu une épreuve, et de là est venu tout un tas de questions. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que en échangeant avec des amis professeurs des écoles et aussi enseignants en collège et au lycée, ainsi que dans de hautes études, ils m'ont indiqué, étonnamment, qu'ils voyaient depuis quelques années, 4-5 ans maximum, que des jeunes s'affirmaient catholiques par opposition à d'autres religions qui prennent trop d'envergure. Et c'est aussi des éléments à prendre en considération, parce que de là vient une opposition, donc une recherche d'identité, et il y a un élément qu'on ne prend pas assez en considération et qui est très utile, c'est les nouveaux moyens techniques. J'entends par là les nouvelles technologies, que ça soit YouTube ou d'autres éléments tels que Twitter et autres, qui permettent à ces jeunes d'avoir un petit pied dans l'embrasure de la porte et au travers de cette petite ouverture, se dire « Tiens, il y a quelque chose ». Et puis, quelques temps plus tard, d'aller pousser la porte d'une église, d'aller échanger avec un chanoine, un prêtre, un religieux, en somme, ou une religieuse d'ailleurs, et au fur et à mesure d'avoir ce cheminement. Alors que beaucoup pensaient justement la religion catholique morte suite aux années 60 et aux chiffres initialement énoncés, on se dit on passe de 90% de croyants, attention, quand on parle de croyants, c'est tout au moins se revendiquant croyants, au travers des sondages, à 50% de la population, et dans ces 50%, on va voir des jeunes se rattacher à quelque chose dont ils étaient complètement ignorants. Et de là vient aussi un autre élément qui est intéressant à soulever, c'est le taux de confirmation. Parce que, bien évidemment, on pourrait se dire, bon, le taux de confirmation, c'est quelque chose qui n'a pas grande importance. Et pourtant, si. Parce que, comme vous le disiez un peu plus tôt, de nos jours, à la fin des années 90, pour 600 000 enfants nés en France, il y avait 150 000 baptêmes.
Eh bien, c'est la solidité de la foi, la confirmation.
Tout à fait.
Et donc ça veut dire que ce sont des gens qui veulent avoir une foi solide
et
confirmée.
De nos jours, par l'Esprit Saint. Cela représente, parce que malheureusement je n'ai trouvé que les chiffres de 2023, hélas, un peu moins d'un cinquième de ces enfants qui ont été baptisés plus jeunes qui se confirment. Ça représente 41 000 baptisés pour l'année confirmés pour l'année 2023. Et il faut mettre ces chiffres dans une certaine relativité, parce que il faut se dire, effectivement, nous avons eu 150 000 enfants qui ont été baptisés, il y en a plus de 40 000 qui se font confirmer, et à côté de ça, on a des jeunes, et des moins jeunes, parce qu'il ne faut pas les omettre, qui reviennent à la foi, et qui vont se faire baptiser et confirmer dans la nuit de Pâques. Bien sûr, le catéchuménat est un parcours un peu long, parce que c'est 2 ans tout de même, il faut pouvoir les tenir. Il y a tout cela, et c'est assez beau. Et c'est ce qui m'amène à conclure en disant il y a un espoir en France, il faut continuer de prier, et on le voit notamment avec l'obligation pour le pèlerinage de Chartres d'ouvrir une deuxième colonne pour pouvoir accueillir tous les pèlerins. Et donc, je n'ai qu'un mot, chers amis, à vous recommander, gardez espoir et surtout priez.
Merci, Merci, cher ami. C'était très intéressant. Et j'avais deux questions pour vous, là, qui sont arrivées, parce que...
Alors, allez-y, comme ça, je ferai ma petite... j'ajouterai mon grain de sel.
Faut-il penser des revendications de territoire sous le prétexte des promesses de Dieu d'Abraham, alors qu'il y a quelques années, le directeur de l'Institut archéologique de Tel Aviv israélien a écrit qu'aucune preuve archéologique des événements prétendus réels dans la Bible ne confirmait l'historicité de ces histoires avant le 9e siècle avant Jésus-Christ. Bon, on va laisser
tomber. On parlerait de géopolitique en disant quand on est en situation de force, on demande, on espère et on demande plus. Voilà. Ensuite, voilà. Enfin, l'archéologie donne raison à ce. Donne raison aussi bien aux Babyloniens. Enfin, donc c'est pas là.
Suite au conflit, ne pensez-vous pas que le plus dur est encore à venir pour les Européens, car les Occidentaux ont fait jouer leurs réserves de pétrole, mais aussi parce que la Russie vient de fermer l'approvisionnement en pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne par la branche sud de l'oléoduc Zurba, une branche qui ne traverse pas l'Ukraine.
J'ai oublié de parler de la Russie, mais...
Et cette fermeture aurait pour but de forcer l'OTAN et surtout les Baltes à passer, etc.
Ça paraît assez habile, mais est-ce que... Bah...
Oui.
C'est possible, je pense que le choc arrive. Hein. J'avais juste donc un petit mot à raconter. Alors je cherchais le nom de cet ami qui est recensé dans Politique Magazine, qui est donc Philippe Pélissier, qui a écrit un recueil de témoignages qui s'appelle « Ils sont entrés dans l'Église » et qui est justement sur les baptêmes, notamment, lui, ce qui l'intéresse, c'est par la voie de la liturgie traditionnelle, en expliquant l'importance de ce rôle. Je finirai sur un petit salut, puisque nous allons nous retrouver, Roch et moi, dimanche, pour un baptême, justement. Non, samedi, pour un baptême, et je ne donnerai pas le nom du bébé, parce qu'il n'est pas encore baptisé, donc il n'a pas vraiment de nom. Il n'a même pas encore de pseudonyme sur Radio Courtoisie, c'est dire s'il est encore dans l'enfance.
Et bien évidemment, après, nous nous retrouverons au colloque d'Action française, la France intégrale et la France fédéral.
Sujet
et je vous recommande vivement d'y aller. Bien évidemment, il y a aussi...
J'y prendrai la parole.
Ah, bien. C'est d'autant plus intéressant.
Ça fait une raison de plus d'y aller. Nous serons là.
Allez, merci, chers amis. Et nous nous disons au mardi dans 15 jours.
Et pour
merci à mes collaborateurs, Élie de Trèves et
Charles
Roch.
Merci au public et merci à Hilaire de nous inviter.
Et merci, chers auditeurs, de suivre tout ça avec fidélité. Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Réaction dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 5 mai 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€. Ou 6 euros seulement, si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.